Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast officiel des Cahiers du Catch. Ici, toutes les semaines, on résume, on analyse l'émission phare de la WWE Monday Night Raw. Et avec moi cette semaine pour passer en revue l'édition du 15 mai 2017 qui se déroulait à Newark dans le New Jersey, l'intrépide Raphaël qui est de retour. Comment vas-tu, Raphaël ?
Eh bien, je vais bien, je vais bien, je suis de retour. Vas-tu bien, toi aussi, Ringside ?
La pêche, la patate, tout va bien. En route pour de nouvelles aventures. Alors, tu vas me demander au programme ce soir, cette semaine, qu'est-ce qu'il y avait ?
Il y a quoi ?
Eh bien, alors, je te le donne en mille. On cherche un remplaçant pour Braun Strowman. Alexa Bliss apprend à Bayley le sens du mot « extrême ». Trahison chez les tag teams. Et on a quand même une défense du titre intercontinental. Dean Ambrose affronte The Miz ce soir. Un rôle exceptionnel en quelque sorte. Parce que c'est pas tous les jours que Dean Ambrose il défend son titre hein, quand même.
C'est vrai.
Alors, ce petit rôle, bon, il y a un petit package vidéo où on nous rappelle un petit peu la castagne entre Braun Strowman et Roman Reigns hein, qui débouche hein, sur une blessure pour Strowman qui va être absent des rings quand même à peu près 6 mois, hein, d'après ce que j'ai compris. Donc plutôt une mauvaise nouvelle. Et c'est Kurt Angle qui nous l'annonce en début de show. Il arrive au ring, donc il nous explique que ce pauvre Strowman est blessé au coude. Il a été notamment rapatrié d'Angleterre pour être opéré. Du coup, il perd sa chance au titre, parce qu'il devait aller affronter Brock Lesnar. Et donc, va falloir trouver un nouvel aspirant numéro 1. Donc, Kurt Angle décide de mettre en place pour Extreme Rules, le prochain pay-per-view exclusif à Raw, un Fatal 5-Way Extreme Rules match pour déterminer l'aspirant numéro 1 donc, au titre universel qui est détenu par la bête Brock Lesnar. Alors, tu vas me dire, qui sont les participants ?
Bah, qui sont les participants, du coup ?
Eh ben, pas moins que Seth Rollins, Samoa Joe, l'ami Finn Bálor, l'invaincu Finn Bálor, Bray Wyatt, le mangeur de monde, et le Big Dog, Roman Reigns. Et c'est ce dernier qui débarque, Roman Reigns. Alors, il est visiblement encore diminué, il se tient encore un peu le bras. Et il nous explique qu'il n'y a pas besoin de Fatal 5-Way match en fait pour déterminer l'aspirant numéro 1 puisque c'est lui le number 1 contender. En effet, il a déjà battu le Taker, il a envoyé Strowman à l'hosto. Il est le seul, soyons sérieux, c'est le seul à pouvoir battre Brock Lesnar. Mais il se fait couper la chic un petit peu puisque c'est Finn Bálor qui débarque. Et il fait à Reigns, à Roman Reigns, la même promo qu'il a fait la semaine dernière à Rollins. Il tient le même langage, le même discours, c'est-à-dire que la file d'attente pour aller affronter Brock Lesnar, elle démarre derrière lui, elle démarre Finn Bálor, puisque lui, il nous rappelle que c'était le premier champion universel de l'histoire, hein, dès qu'il arrivait dans le roster principal l'année dernière, et il a jamais perdu son titre, hein, il a dû l'abandonner puisqu'il était blessé, blessé à l'épaule. Reigns lui rétorque que écoute Coco, t'es gentil, tu as du cœur, mais tu n'as pas l'instinct du tueur comme le Big Dog. Mais Bálor nous rappelle que la dernière fois qu'ils sont affrontés, hein, Reigns et Bálor, c'était le premier soir de son arrivée à Raw, et il a vaincu Roman Reigns. Donc voilà, hein, question castagne pour l'instant, c'est plutôt 1-0 pour Bálor. Là, s'il est temps qu'un nouvel aspirant entre dans la partie, un nouveau joueur, c'est Samoa Joe. Donc, il nous explique que bon, tout ça, cette bataille, ce Fatal 5-Way, c'est pas une histoire de yard, de terrain, c'est pas une histoire de club, hein, comme le Bálor Club. C'est une question d'action. Un exemple, action, il porte le Coquina Clutch sur Seth Rollins. Rollins finit à l'hosto. Et un autre exemple d'action, si Joe arrive dans le Fatal 5-Way, on n'en saura pas plus, puisqu'il est coupé par Bray Wyatt, qui débarque, qui nous explique que lui, il sent la peur de ses concurrents à l'approche de la bête Brock Lesnar. Toujours un petit peu lunaire, hein, Bray Wyatt. Et il est temps que Rollins débarque, qui nous explique qu'on n'est pas venu là pour blablater, on n'est pas venu là pour les écouter causer. Lui, il vient affronter Samoa Joe, il se jette sur le Samoan, ça commence à se bastonner, Rollins réussit à faire fuir carrément Joe. D'un autre côté, une petite baston générale qui s'ensuit, Bray Wyatt qui réussit à prendre l'avantage un peu sur Baylor et sur Roman Reigns. Mais finalement, Finn Balor réussit à revenir dans l'action, il fait le ménage dans le ring. On se retrouve un peu plus tard dans les vestiaires, ça s'engueule et Kurt Angle programme pour ce soir pas moins que deux gros matchs, Seth Rollins contre Bray Wyatt en main event pour la première fois de l'histoire et un rematch Finn Balor contre Roman Reigns. Donc ça, c'est au programme de ce soir. Qu'est-ce que tu penses de tout ce micmac, ce départ de Strowman et ces cinq aspirants là pour le titre de la ceinture? Est-ce que t'as un pronostic déjà? Est-ce que ça te plaît? Dis-nous tout, Raphaël.
Bah, un pronostic, je vais peut-être le garder après quand ces deux gros matchs seront analysés. En tout cas, c'est sûr que ça fait deux affiches potentiellement de pay-per-view, là, Reigns, Balor et Rollins contre Bray Wyatt, donc c'est du bon booking. Je trouve qu'il est très bon, Kurt Angle, dans ce côté, il veut vraiment faire des bons raw, faire des bons shows, des bons soirs avec des gros matchs, des grosses affiches, quoi. Il n'y a pas d'épisode de transition, hein, avec lui. Il n'y a pas de raw un peu mou du genou. Après, moi j'avais pas trop suivi, c'est peut-être un oubli de ma part, pourquoi c'était Strowman l'aspirant numéro 1, peut-être parce qu'il avait battu Reigns la dernière fois, mais je me souviens plus qu'il y avait eu ça en jeu. Bref, en tout cas, a priori, d'après ce que j'ai cru voir sur l'internet mondial, hein, c'est pas spécialement vrai que ça va durer 6 mois, la blessure de Strowman. A priori, il devrait revenir dans moins de temps que ça, mais on verra bien.
On croise les doigts, comme on dit.
On croise les doigts pour lui. En tout cas, on va reparler dans cet épisode du booking de Roman Reigns, qui est souvent un sujet de discussion, mais là, il arrive clairement pour moi, vraiment, en tant qu'heel, quand il dit « j'ai battu le Taker, j'ai battu Strowman », donc du coup, il est limite lâche, hein, puisqu'il dit « on n'aurait pas besoin de faire ce match de Fatal Five Way », ça lui ressemble pas trop, ça, je trouve.
Ouais, ça, c'est son côté bad boy, son côté patron de... Patron du roster, hein, les gars. De toute façon, je gagne tout le temps. Ouais, alors, ouais. À quoi ça sert d'essayer de faire intervenir d'autres personnes? Mais c'est vrai qu'il y avait cette histoire avec Baylor, hein, qui avait toujours une victoire sur Reigns. Donc, il fallait démêler ça. C'est ce qu'on va démêler ce soir.
C'est ce qu'on va voir.
Exactement. Donc, plutôt une entrée en matière plutôt efficace, hein, au final. On rebat un peu les cartes et puis on est toujours content de voir Kurt Angle.
C'est vrai.
Il y a beaucoup de participants, du coup ça blablate un petit peu beaucoup, mais ça termine en petite bagarre, donc c'est pas plus mal. La suite, en fin d'émission. Tout ça s'aboutisse de gros matchs. Alors, on va se débarrasser des cruisers tout de suite, puisqu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Neville et son acolyte TJP, hein, donc Neville, le champion cruiserweight, hein, le roi des cruisers même, hein, ils sont en équipe et ils affrontent Gallagher et Harris. Austin Harris, l'aspirant numéro 1 en quelque sorte. Donc on a déjà vu ça une paire de fois. TJP gagne avec le Dead Nation Kick dans un match qui est pas mal, hein. Ça bouge un peu dans tous les sens. On a Austin Harris qui est quand même assez revanchard, qui en veut bien Neville, qui veut pas lâcher le morceau. Il réussit à lui placer son coup de tournoyant là, Five Star Elbow là, ouais. À l'extérieur du ring, mais bon, il perd le match quand même. Et après, on a Neville et TJP qui nous teasent un petit brisage de rotule pour 205 Live, hein, parce qu'il y a encore TJ Perkins, enfin TJP maintenant, qui va affronter aussi Larris. Et on ne dit plus TJ Perkins.
Hein, oui, TJP, il faut oublier le Perkins.
Voilà. C'est la même chose que la semaine dernière, hein. Il compte toujours casser le genou d'Austin Harris.
Un segment très injustement accueilli, j'ai trouvé, par le public qui a scandé que c'était chiant et qui a scandé des chants CM Punk et d'autres chants que j'ai pas trop compris, mais c'est un peu dommage parce que je trouve que là, pour une fois, ça fait plusieurs semaines, mais cette rivalité Aries contre Neville, elle est vraiment bonne. Et puis on a là quatre gars qui sont très bons sur le ring. Ils ont réussi à isoler un bon quatuor là avec Gallagher qui est divertissant et TJP qui s'en sort pas mal en heel.
Ouais.
Donc ça méritait mieux que ça, je trouve, de la part du public. Parce qu'il y a eu des moments beaucoup plus pourris dans ce Raw quand même. Enfin, je
C'est
pense à.
ça, c'est ça. Non, on leur laisse pas de chance hein, à ces cruisers. Ça fonctionne pas
Bah, il y a un an,
et
j'aurais
j'ai la
compris, mais là, il y a.
Ouais. C'est sûr que avec ce qu'ils nous proposaient au début, il y avait de quoi grincer des dents, mais là maintenant, il y a quand même du niveau et généralement les matchs sont bons, surtout à Raw.
Ouais, alors c'est peut-être que c'est. Oui, là, il se passe pas grand-chose, l'histoire avance pas beaucoup, mais bon.
C'est sûr que
Écoute.
là ça patine, mais même quand c'était bon, même la semaine dernière, quand ça avançait un peu et qu'il y avait des gros matchs, il y a eu ce match entre Neville et Mustapha Ali là qui avait été complètement snobé par le public alors que le match était excellent. Bon, il y a quelque chose qui fonctionne pas avec le public des Weekly.
Ça dépend des salles, en tout cas, ouais.
Ouais.
C'est très
Donc
aléatoire.
là, il y a encore du boulot hein, pour que ça puisse accrocher. Bon, là, on va attendre le troisième match entre Neville et Ossilaris quand même. Donc ce sera au prochain pay-per-view Extreme Rules. Ça risque d'être sympa quand même.
Oui.
Avançons, on va aller chez les tag teams. Alors, on a un match en solo chez les tag teams puisque Jeff Hardy affronte Sheamus. Donc la team Cesaro qui arrive. Ils sont tous sourires, ils font moins la gueule que la semaine dernière. Donc on se souvient hein, que Sheamus avait explosé une dent de Jeff Hardy hein, avec un violent coup de pied. C'était les Geeks, hein, mais bon, ils ont intégré ça dans l'histoire maintenant. Donc il y a une petite revanche à prendre de la part de Jeff Hardy qui attaque tout de suite violemment l'Irlandais. Donc il prend relativement l'avantage, mais Sheamus, juste avant la pub, réussit à contrer un Somerset Plancha à l'extérieur du ring là et il écrase Jeff Hardy contre les barricades. Donc après, bah après la pub, bah, ça reprend. Bah c'est toujours Sheamus, toujours très violent. Et Jeff Hardy qui se laisse pas faire, hein, c'est un vieux routier, il sait quoi faire pour gagner. Donc ça se termine avec une intervention un petit peu de l'extérieur de Matt Hardy qui est obligé de, en fait, d'intervenir parce qu'il y a d'un côté Cesaro qui essaye aussi un peu de distraire tout le monde. Et ça se termine avec un broad kick dégueulasse de Sheamus sur Matt Hardy.
Oui, en deux temps.
Voilà, et après un Swanton Bomb dégueulasse de Jeff Hardy sur Sheamus où il s'assoit sur lui hein, carrément.
Alors, il y a un twist of fate entre les deux qui est pas mal.
Voilà, il y a aussi un beau twist of fate qui est placé. Voilà, donc victoire de Jeff Hardy. Suite à son worst Swanton ever. Voilà, ils n'ont pas montré un très beau catch hein, cette semaine. Je sais pas ce que tu en as pensé.
Ben non, ça me déçoit un petit peu tout ça. Alors déjà, bon, moi je suis déçu du. Ben, je sais pas trop quoi en penser en fait. Parce que je suis déçu du heel turn, parce que je trouvais qu'ils ont vachement moyen d'être très over Cesaro et Sheamus, mais en même temps, je trouve que c'est quand même très flatteur pour eux de les avoir choisis eux comme challenger sur plusieurs mois des Hardy, mais en même temps, je pense qu'ils remplacent au pied levé les Revival blessés. Donc il y a dû sûrement avoir un programme un peu de dernière minute. Et puis oui, alors ça s'étire dans le temps. Donc avant le dernier pay-per-view, là on avait déjà eu des affrontements un contre un. Donc là on recommence les configurations. Cesaro et Sheamus apparaissent très faibles, je trouve, individuellement face aux Hardy, alors que ça devrait être l'inverse. Les Hardy individuellement, ils valent pas grand-chose. C'est parce que c'est des putains de frères qui catchent ensemble depuis 20 ans, qui sont bons en équipe, mais. Ils prennent jamais le dessus en un contre un chez Sheamus et Cesaro, alors que les individualités devraient être meilleures. Donc c'est bizarrement fait, et puis en même temps ça avance pas beaucoup. Ouais, bon, pas terrible quoi.
Ouais, un coup d'épée dans l'eau un petit peu cette semaine, puis ça se voyait vraiment. L'âge se fait sentir quand ils sont en solo, hein, les frères Hardy. Là, on voyait bien qu'au niveau des genoux, hein, ça suivait pas trop là au niveau de Jeff Hardy.
Ouais, t'as toujours l'impression que c'est pas le meilleur qui gagne quoi.
Ouais, voilà, clairement, parce que tu sens que les autres pourraient les plier en à peu près 30 secondes.
Ouais.
Moi, ça m'a fait un peu chier de voir débarquer en souriant Sheamus et Cesaro. Je trouvais que c'était bien quand Cesaro faisait la gueule. Et que Sheamus soit content, ça c'est pas grave, mais je préférais voir ce Cesaro aigri là en méchant, que là il recommence à faire le tout sourire. C'est pas comme ça qu'ils vont s'attirer de la hit de la part du public. Donc il faut faire attention parce que c'est pas non plus gagné que les gens se retournent vraiment contre eux. On peut se retrouver encore avec des réactions un peu tièdes, mais bon, il y a quand même du star power dans tout ça, donc c'est sûr que ça patine un petit peu et que le match n'était pas beau cette semaine, mais bon, on devrait se rattraper assez facilement sur ce coup-là. Tag team toujours avec Golden Truth. On est dans les vestiaires. Alors, on se souvient que la semaine dernière, hein, Goldust considérait que c'était un peu le match de la dernière chance, le Gauntlet match auquel ils ont participé pour essayer d'avoir une place d'aspirant numéro 1. Donc là, Hartruth vient voir Goldust dans les vestiaires. Il culpabilise le pauvre Hartruth. Mais Goldust lui remonte le moral. Il dit, écoute, c'est pas ta faute. Hein. C'est pas la première fois qu'on perd. Hein. Combien de fois on s'est relevé. Toi, tu as toujours été là pour moi quand j'avais le moral à zéro. Tu m'as toujours soutenu. Donc allez, on y retourne. Hop, c'est parti. Ce soir, ils ont un match. Ils débarquent au ring. Hartruth fait ses petites chances, sa petite musique hip-hop. Mais on saura jamais qui devait affronter puisque Goldust attaque dans le dos Hartruth et le passe à tabac. Alors on entend des chants Thank you Goldust. Donc il y a sûrement plus de racistes que d'homophobes dans le public ce soir-là. mais c'est bien le passage à tabac complet de Hartruth et un heel turn de Goldust. Est-ce que ça t'a marqué ce retournement de situation là chez les vétérans?
Bof, honnêtement bof, parce que quand même ça fait très, c'est des jobbers ultimes quoi, enfin c'est des low-carders ultimes, donc ça fait des mois qu'on les a pas vus à Raw, et puis là deux semaines avant cet événement ils ressortent des cartons pour participer à une grande un Gauntlet match ou Turmoil, là je sais plus comment ça s'appelle, bon ils perdent comme attendu, et puis là bon bah il y a heel turn. Je m'y attendais pas spécialement, mais je suis pas vraiment convaincu que ça me touche vraiment. Mais c'est vrai que ça m'a fait penser à ça, ce que tu disais. C'est, je reviens sur l'autre segment tag team d'avant, mais c'est vrai que les Sheamus et Cesaro ont fait un tel exploit la semaine dernière en éliminant tout le monde que la semaine d'après, ils sont apparus vraiment faibles face aux Hardy. Donc pour revenir sur ce segment, bah, écoute, moi j'avoue que j'ai un peu fait avance rapide. Une fois que j'ai compris qu'il y avait heel turn et passage à tabac, bon.
Bon, ça leur donne du temps d'antenne, hein, aux vétérans.
Oui, ça t'a ému à toi.
Moi, mon petit cœur était brisé. Tu sais, comme je suis sensible, alors.
Oui, bah, enfin voilà, là, c'était pas.
Avoir une amitié comme ça, une amitié de quoi? Ça fait au moins 5 ans qu'ils étaient en équipe, un truc comme ça.
Peut-être pas, non.
Peut-être pas. Hein. Et de toute façon, tout le monde s'en fout.
Voilà, c'est ça.
Mais bon, bah, un dream match en perspective, hein, Goldust contre Hartruth.
Oui, en Extreme Rules.
C'est ça, on a entendu voir avec ça. J'espère que ce sera un match de l'escalier. La suite. Soft, la team Soft, vous vous souvenez? Enzo, Big Cass.
Ah oui.
Eh ben, il joue à domicile, puisqu'on est au New Jersey. On est à New York. Donc, il débarque, il nous tape une grosse promo. Donc, Enzo, hein, qui se revendique du coin, hein, je suis l'enfant du pays, tout ça. Mais il se fait couper la chic par. Titus O'Neil et Apollo Crews.
Dis donc.
Eh, ça c'est une team. Apollo fucking Crews et Titus O'Neil en costard qui débarque. Donc ils arrivent et puis ils se foutent un peu de la gueule de Enzo et Cass, hein, puisque Apollo Crews va même reprendre les gimmicks de la Team Soft, hein, il va refaire un déroulé là en blablatant au micro, comme d'habitude le fait Soft. Donc on est censé avoir un match entre Apollo et Enzo.
Et non,
en fait c'est Big Cass qui décide de se booker face à Titus O'Neil. Donc Titus est pas trop content parce qu'il est en costard, il dit écoute non c'est pas possible, mais il y a quand même le match. Évidemment Titus se fait battre par un bon big boot de Enzo, de Big Cass, pardon,
ouais. Pas à ce point là.
Big boot d'Enzo, on demande à voir. Voilà, donc il est complètement à chaise, victoire de Bicasse. Et là, Enzo revient faire un petit selfie. Et ça plaît pas à Apollo Crews qui met un bon kick à la volée sur Enzo. Dans l'indifférence générale, est-ce que c'est un heel turn d'Apollo Crews? Est-ce qu'on s'en soucie vraiment? Est-ce que tu as quelque chose à dire sur tout ce petit segment-là?
J'ai deux, trois choses à dire, et oui, aussi étonnant que
Ah.
cela puisse paraître. La première réflexion que je me suis fait, c'est que je me dis que le booking d'Enzo et Cass, depuis qu'ils sont là, est vraiment pas mal. Dans le sens où ils ont une pop d'enfer. Ils ont l'air de vendre du merchandising en paquet. Là, on voit les fausses coiffures d'Enzo partout, les t-shirts, enfin, ils ont l'air de marcher à fond avec le
Ouais.
public. Ils sont là toutes les semaines. Mais ils ont quand même un petit plafond de verre dans le sens où ils n'ont encore jamais eu la ceinture. Ils ont été challengers pas si souvent que ça. Donc ils sont pas, enfin, je sais qu'ils énervent certains, mais ils sont pas assez hauts sur la carte pour, je trouve, être vraiment énervants. Ils restent à leur place, donc dans un style divertissant, de mid-card. Donc je trouve qu'ils sont pas mal gérés. Après sur ce segment-là précisément, bon, Titus O'Neil, je trouve aussi qu'il a bien trouvé son personnage là qui lui va à merveille hein, avec sa gueule un peu de benêt là.
Sa gueule de
Il
con,
est,
hein, même, j'ai envie de dire.
oui, sa gueule de con. Oui, allons-y. Non, il a un bon personnage là. Je pense que ça peut donner quelque chose. Après Apollo Crews, ouais, bah, ça me fait beaucoup penser à TJP là, c'est-à-dire ouais le gentil mais pas trop charismatique qui va faire un heel turn un peu. Influencé par un méchant un peu plus capé. On verra ce que ça donne, mais bon, c'est pas spécialement désagréable, je trouve.
Ouais, moi je trouve que c'est une bonne idée d'avoir associé Titus et Apollo, parce que Apollo il a vraiment plus les semaines passent, plus on se rend compte qu'il a pas de charisme du tout quoi. Là j'espère quand même que le public va s'intéresser un petit peu à cette petite intrigue là.
Bah, Titus, c'est très bon, hein, pour passer pour un con. On se souvient là
C'est
quand il y avait
ça.
avec New Day et tout. Donc
Ouais.
ça va bien coller à la Team Soft, je pense.
Ouais, dans le registre comique, c'est assez efficace finalement ce Titus.
Oui.
Et comme tu dis, ouais, je suis plutôt d'accord avec toi quand même, la Team Soft, ils sont quand même bien gérés, on les voit pas suffisamment pour qu'ils nous sortent par les yeux. Ils sont toujours populaires, comme tu dis, ça fait du pognon, hein, parce que ça vend du t-shirt, ça vend des perruques.
Ouais, ça a l'air, hein.
Voilà, s'il y avait d'autres choses qui pouvaient être aussi bien gérées que cette team-là, ce serait pas mal. Ouais, ils savent faire. Là, on est avec des personnes qui ont des limitations, hein. Donc, Enzo et Cass, ça a ses limites dans le ring. Titus aussi. Apollo, c'est plutôt le charisme qui manque. Voilà, on arrive à faire sortir quelque chose qui est à peu près divertissant. Voilà, bon, on attend de voir la suite.
Ouais.
Voilà, on sort plutôt content. Bon, après, ouais, j'ai vraiment peur pour Apollo Crews. J'ai peur que même son heel turn ne fonctionne pas. Mais bon, après, des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein, puis c'est tout. Voilà. Voilà pour les tag teams. Là, on a fait le tour des tag teams.
Oui, je pense. D'ailleurs, ça me fait penser, je crois que, enfin, on s'en fout, hein, mais je crois que Golden Truth, ils avaient dit dans les vestiaires qu'ils allaient affronter Gallows et Anderson, donc du coup, on n'a pas vu les deux chauves. Mais bon,
Ah,
ça.
c'était Gallows. Ben, je me demandais qui c'est qui venait affronter en
Il me
fait.
semble qu'ils l'ont dit, mais bon, du coup, ils n'ont pas pu venir les autres.
Ouais, bon, ils vous nous manqueront pas cette semaine.
Non, ça
C'est
va.
pas une grosse perte. Allez, on va dans quelque chose d'un peu plus sympa. Les filles. On a un rematch de la semaine dernière, puisqu'il y avait une victoire controversée. Sasha Banks avait battu Alicia Fox, mais d'après la vidéo, Alicia Fox n'avait pas les deux épaules au sol. Donc cette semaine, Alicia, accompagnée de Noam Dar, arrive au ring, enfin elle est déjà dans le ring plutôt, je crois. C'est Sasha Banks qui débarque plutôt. Donc on a une bonne bagarre, un bon petit match, Alicia Fox qui déroule un petit peu plus que d'habitude, Sasha Banks qui se fout un peu de la gueule de Noam Dar, mais à la surprise générale, c'est Alicia Fox qui gagne, puisqu'elle réussit à faire tomber Sasha à l'extérieur du ring qui fait une mauvaise chute, et en revenant, bah, à l'intérieur du ring, elle se mange un ciseau de jambe à façon Booker T, comme sait si bien le faire Alicia Fox. Et donc on a une victoire d'Alicia Fox sur Sasha Banks. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sacha Banks battu par Issia Fox, qu'est-ce que t'en penses, Raphaël?
Ouais, alors là, je comprends pas du tout. J'avoue que ça sort du néant. Alors j'ai l'impression, mais je vais en parler en conclusion de l'épisode. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui on dirait que c'est des changements de dernière minute. Enfin, Sacha qui était on nous teasait. Alors c'est peut-être ça qu'on nous retease, hein. Peut-être que cette défaite va l'énerver encore plus et qu'elle va turner, je ne sais pas, mais elle était avec Bayley et tout, là elle était dans le truc jusqu'à WrestleMania, là c'était tendu, et là bon bah Alicia Fox, ça fait quand même des années qu'elle n'est pas spécialement intéressante et qu'elle est là, donc on sait qu'elle va pas devenir extraordinaire du jour au lendemain. Elle gagne clean contre Sasha Banks, quoi. Putain, c'est Sasha Banks l'an dernier, les matchs avec Charlotte, la FUD et tout, les matchs en cage. C'est pas Sasha Banks du début d'année là qui était blessée, enfin qui était bookée blessée et qui se faisait un peu éclater par Nia Jax. Là, c'est Sasha Banks visiblement en pleine forme, en pleine possession de ses moyens. Ouais, non, j'avoue que j'ai regardé le match un peu d'un œil, hein, parce que l'affiche m'attirait pas beaucoup, mais quand j'ai vu la fin, ah oui, j'ai dit bah, qu'est-ce qui se passe là?
Oui, surprenant.
Oui, hein, vers où on va? Bon, je sais pas vers où on va, mais bon. Est-ce que toi, ça t'a réjoui ou ça t'a...
À moi, voir perdre Sacha Banks, ça ne me réjouit pas du tout. Et surtout qu'au commentaire, il mettait l'accent sur le fait que peut-être Sacha Banks, son heure de gloire était passée. Il disait
Ah
que
ouais.
c'était Flavor of the Month. Voilà, il a eu son petit quart d'heure de gloire et que là, il est redescendu un peu dans les tréfonds de la carte.
Bah oui, bah
Donc
oui.
j'espère qu'effectivement, c'est pour teaser le heel turn tant attendu et puis une remontée vers les sommets. Je pense qu'on va aller vers ça parce que je pense pas qu'ils vont abandonner le projet Sasha Banks comme ça. Mais je crois que là, effectivement, l'heure est plutôt Alexa Bliss.
Ouais.
Et qu'il faut pas faire trop d'ombre à Alexa Bliss quelque part, donc on met un peu Sasha Banks en réserve, et puis on verra bien ce que ça donne plus tard. Mais c'est sûr qu'une défaite contre Alicia Fox comme ça en weekly, c'est un peu. Ou alors elle a fait quelque chose de mal dans les vestiaires qu'on n'est pas au courant, et puis elle a une droit à une petite punition, quoi.
Avec qui a-t-elle couché donc?
Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est surprenant. Et puis, ouais, non, faudrait pas que ça continue comme ça, parce qu'une rivalité Alicia Fox, Sasha Banks, ça peut pas donner grand-chose non plus, quand même. Bon,
Oui, ou
après,
alors il aurait...
on sait toujours qu'Emma est blessée, donc ça a dû court-circuiter aussi un peu les projets
Ah oui, c'est
qui
vrai,
étaient
mais bon.
prévus.
Oui, c'est vrai, Dana Brooke. Et... Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qu'on voit plus trop là.
Donc là, je pense qu'ils sont peut-être en train de remanier un petit peu les trucs et qu'il y a. Des
Ouais.
fois, souvent, chez les filles, ils partent dans des machins, on se demande ce qu'ils font, puis finalement, il y a une raison cachée derrière, et puis on est rassuré. Donc on va espérer, on va croiser les doigts, on va espérer que c'est ça. Et on va aller chercher quelque chose d'un peu plus réjouissant, le règne d'Alexa Bliss. Donc la belle Alexa qui débarque au ring.
Ah.
Voilà, tout en dédain, tout en méchanceté,
Ah
la
oui.
déesse de Raw qui se moque de Newark, qui critique les
Oui.
habitants qui sont des bouseux, hein, etc. Voilà, il y a des chants Watt qu'elle balaye là d'un geste en
Oui.
disant vous êtes tous, si vous êtes un crétin, criez Watt, et voilà, genre criez
Voilà,
Watt, voilà,
génial.
ils sont attrapés.
Qui sont bêtes.
Qui sont bêtes, ce public d'idiots.
Non, c'est elle qui est très intelligente.
C'est ça, c'est ce qu'elle explique, hein. C'est assez facile de devenir la meilleure quand on est plus intelligente et plus talentueuse. Là-dessus, Bayley débarque, la gentille Bayley, qui vient évidemment demander un rematch à Extreme Rules. À Extreme Rules, putain, please. Elle lui explique à Bayley, écoute. T'es gentil, Bayley, mais Extreme Rules quand même, comment on va faire? Parce que toi, tu seras jamais extrême. Voilà, Bayley, ça lui monte au nez, toutes ces critiques, et elle saute sur Alexa Bliss, c'est le début de la bagarre, mais Alexa, intelligemment, réussit à placer une guillotine sur Bayley. Elle fouille sous le ring, et elle trouve un kendo stick. Et c'est parti, elle va frapper Bayley avec le kendo stick dans le dos. Extrême violence de l'image. Bayley qui se tord de douleur. Alexa Bliss qui prend l'avantage psychologique. Un peu plus tard dans l'émission, on a Kurt Angle et Bayley dans les coulisses. Kurt Angle essaye de dissuader Bayley de d'avoir ce match. Il lui explique que voilà, elle est peut-être pas prête pour ça, etc., etc. Mais Bayley veut absolument son match et donc on aura un Kendo Stick on a Pole match. Donc ça, c'est un match avec un Kendo Stick accroché dans un coin du ring sur un poteau. Voilà une nouvelle affiche un nouveau match qui est rajouté à l'affiche d'Extreme Rules. Toi, tu as savouré, je pense, ce passage d'Alexa Bliss face à la foule.
Ah bah, j'adore Alexa Bliss. Ah, c'est vraiment c'est le top du top en ce moment chez les filles. Elle est vraiment excellente. Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a fait ça toute sa vie ou c'est inné. Hein. À ce niveau-là, ça ne peut être que inné. Non, à chaque fois, moi, je me délecte. Hein. C'est un peu, ils sont pas beaucoup. Hein. Ça me fait penser un peu à ce que peut faire le Miz ou à certains chez les hommes, mais chez les filles, ouais, elle a peur de rien, quoi. Ça lui vient hyper naturellement, les réactions du public. J'adore Alexa Bliss. Et je trouve que l'angle choisi était pas mal parce que c'est vrai que Bayley, bon, ceux qui l'ont vu à NXT, on sait qu'elle a fait des matchs un petit peu violents, mais c'est pas du tout son personnage d'Extreme Rules, donc se dire est-ce qu'elle est capable de, c'est pas con. Après la stipu Kendo Stick on the Pole, je trouve qu'on aurait pu s'en passer et sortir seulement un petit Extreme Rules match ou No Holds Barred ou False Count Anywhere, parce que là je comprends pas trop le principe en fait. Normalement quand il y a un truc on the pole, dès que tu le décroches c'est que c'est fini, mais là du coup ça veut dire que s'il décroche ça va pas être fini, sinon ça sert à rien d'utiliser le Kendo Stick après.
Une fois que t'as pris le Kendo Stick, t'as le droit de taper sur ton adversaire avec.
Oui, c'est ça. Donc c'est la même chose que s'il est sous le ring, sauf qu'il est dans un coin, quoi.
C'est ça.
Ouais. Oui, c'est une petite touche d'originalité dont on aurait pu se passer, je pense.
C'est vrai. Mais je crois que l'intérêt, c'est de voir Bayley se prendre des coups de Kendo Stick, parce qu'apparemment, elle a l'air de vendre ça très bien.
Donc, ah oui.
Donc je pense que ça va être l'attraction du match. Donc à voir hein, si elle, ça va être aussi une première un petit peu quelque part ça chez les filles un match comme ça. Mm-hmm.
Donc ça peut être voir ce que peut faire Alexa Bliss aussi, ouais.
Ouais. Mais en tout cas ouais, il y a tout son talent qui explose hein, ces dernières semaines à Alexa Bliss. Elle a fait ses preuves à NXT, elle a fait le carton plein à SmackDown. Et là, Raw, elle s'est imposée en quelques semaines. Rien à redire, hein. Ses prestations au micro, ça surpasse tout le reste du roster. On est même au-dessus de Charlotte, hein. On va pas se mentir, c'est même plus efficace encore à ce niveau. Après, il trouve toujours des choses quand même percutantes à sortir, qui sont bien en adéquation avec son personnage.
C'est ça. Bah, c'est-à-dire que c'est vraiment Charlotte a eu quand même une période un peu difficile au début. Même si elle était très très bonne après, mais là Alexa Bliss, franchement à NXT, elle était bien, mais elle a d'abord été plutôt un valet, elle a jamais eu la ceinture de NXT, elle a pas été trop challenger. Non, c'est depuis, enfin elle est arrivée dans les shows principaux et on a l'impression qu'elle a fait ça toute sa vie, quoi. Donc c'est d'autant plus impressionnant.
Ouais, donc clairement un bel avenir pour Alexa Bliss en perspective. Un petit sans faute là pour les filles pour ce petit segment. Bayley c'est toujours pas trop ça au micro hein, quand même, mais en même temps il impose dans ce personnage un peu de vraiment de nunuche. Alors c'est un peu trop nunuche hein, je pense. Et je pense que quand même on va s'orienter vers une victoire peut-être de Bayley qui va s'imposer aussi en mode extrême. Je sais pas ce que tu en penses.
Le pronostic va être difficile là. Ouais.
J'ai l'impression qu'ils font passer des épreuves à Bayley. Hein, d'abord, tu t'imposes vraiment comme une vraie championne et puis ben, maintenant il va falloir être extrême. En même temps, je sais pas, parce que la belle Alexa, elle a quand même déjà gagné le match de la table la dernière fois, donc.
Ouais. Et puis, c'est souvent ça. Hein, Alexa Bliss, elle est moins forte intrinsèquement sur le ring, elle est moins talentueuse. Donc souvent, c'est les stipulations qui permettent de justifier la victoire de celui qui est un peu moins fort, sans que ça soit trop dévalorisant pour l'autre. Mais après, si on pense à la suite, je vois pas trop. Si Alexa reste championne, qui peut passer derrière, qui peut arriver après Bayley, ou alors ça se poursuit. Le pronostic va pas être simple.
Ouais. Et par contre, Kurt Angle qui essaye de la dissuader de faire le match un petit peu.
Oui, bah, des fois, oui, bah, comme Mick Foley faisait.
C'est... Ouais, voilà. Non, non, écoute, faut pas faire ça. Bah oui, mais bon, quand même. Oui. C'est un peu bizarre. Mais bon. Revenons aux choses sérieuses. Un gros
oui.
morceau. Le,
ah oui.
le titre intercontinental qui est en jeu ce soir. Le Miz qui a réussi à se qualifier il y a quelques semaines, je ne sais plus si la semaine dernière ou la semaine d'avant. Il affronte Dean Ambrose. Il veut récupérer pour la 7e fois, je crois. Ça lui ferait une 7e détention de titre intercontinental.
C'est ça.
Donc, Dean Ambrose, hein, on l'a souvent qualifié de grosse feignasse, mais là ce soir c'est le Dean Ambrose des grands soirs. C'est lui qui donne le rythme au match, ça va à 100 à l'heure. Il saute dans tous les sens, le Miz peut pas faire grand chose. Il est souvent amené à l'extérieur du ring, il y a des suicide dives. Ça frappe fort, ça frappe vite du côté d'Ambrose. Mais le Miz il est malin. Il va notamment profiter d'une ouverture, c'est-à-dire d'une lunatic lariat. Qui va réussir à contrer en skull crushing finale, pardon. Mais ce sera uniquement pour le compte de 2. Le Dean Ambrose, il est pas assez amoché. Ça continue l'action. On pousse le Miz à l'extérieur du ring. On va essayer de lui faire une descente du coude, mais Maryse s'interpose. Dean Ambrose ne s'en laisse pas compter, il menace Maryse, il dit je te donne 3 secondes pour t'enlever, moi je vais sauter, j'en ai rien à foutre. Elle est obligée de s'écarter et Ambrose saute sur le Miz. On est à l'extérieur du ring, on fait remonter le Miz à l'intérieur, on va partir pour le Dirty Deeds, mais voilà que Maryse a de la suite dans les idées, elle veut continuer à embêter l'arbitre. Ambrose essaye de remettre un peu l'arbitre dans l'action. Le Miz essaye de lui porter un coup bas, mais Ambrose le bloque. Il se retourne et met un bon coup de pied dans les bijoux de famille du Miz. Hein, faut dire ce qui est, un bon coup de pied dans les couilles.
Oui,
mais
c'est, ça.
C'est au moment où l'arbitre se retourne et Dean Ambrose est disqualifié. Victoire du Miz, mais le titre reste entre les mains de Dean Ambrose, puisqu'on est sur une disqualification.
C'est cela.
Qu'est-ce que tu as pensé de ce match très scénarisé, mais également très percutant?
Ah oui, très très bon match, là. Tu l'as dit, hein, Dean Ambrose, c'est vraiment le catcheur qui est le plus inconstant, je trouve. Instable, hein, c'est son personnage.
C'est
mais
ça.
Vraiment, selon contre qui il feud, il peut être excellent contre comme très mauvais. Là, moi, la semaine dernière, en Angleterre, je les avais trouvés hyper amusants au micro. Et là, bon, bah, ils se sont mis sur le ring et ils ont sorti un très, très, très bon match. Ouais, il y a eu plein de choses inédites. Hein, le coup du sauter malgré Maryse, c'était assez drôle. Et le match était assez bon, le public a beaucoup apprécié, et le finish est très bien écrit, je trouve. C'est original aussi. Ça colle avec les personnages des deux, hein. Le Miz qui
ouais.
essaye un petit coup en fourbe. Dean Ambrose, ça l'énerve, donc il oublie hein, une fraction de seconde où il est et quelles sont les règles. Donc c'était vraiment très très bon. Par contre, après, je ne sais pas si j'en parle, la décision qui en a découlé, hein. C'est que veux-tu, bah, je te laisse y aller hein, puisque tu présentes, vas-y donc.
Alors la suite, effectivement un petit peu plus tard, on a Kurt Angle qui est au téléphone avec une personne mystérieuse, il félicite la personne, on ne saura pas qui c'est. Le Miz furieux débarque, donc il n'est pas du tout content de cette victoire par disqualification d'Ambrose. Donc Kurt Angle lui l'autorise un nouveau match à Extreme Rules pour le titre intercontinental. C'est booké, mais ça suffit pas aux Miz. Donc on va ajouter une stipulation. Si Dean Ambrose est disqualifié, il perd le titre. Donc ça nous rappelle un peu les heures. C'était Christian qui avait gagné un championnat de la WWE de cette manière face à Randy Orton.
Exact.
Et pour l'anecdote, il y a le Drifter qui passe avec sa petite guitare pour nous chanter la sérénade. Kurt Angle demande au drifter s'il peut l'aider, mais le drifter ne pipera mot. Voilà, il continue à faire des... à faire des petits caméos comme ça. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que cette décision là? Qu'est-ce que c'est que ce match où si on disqualifie, on perd le titre? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Mais c'est bien ça que je voulais dire. Donc, le match de ce soir était très bon et le résultat, par contre, et les conséquences me laissent un peu dubitatif puisque nous sommes à Extreme Rules, un pay-per-view extrême, et là clairement le match, la stipulation, ça va être il n'y a pas du tout le droit d'être extrême, puisque visiblement Dean Ambrose, s'il sort la moindre arme, s'il donne le moindre coup illicite, il perdra son titre. Alors sur le coup j'ai trouvé ça complètement con, j'ai eu le temps d'y repenser un petit peu avant que nous podcastons, je me suis dit et pourquoi pas, si ça va donner un match complètement à contre-courant de tout le reste de la soirée. Ça va mettre un gros challenge à Dean Ambrose, qui est quand même un petit peu foufou. C'est tout à fait le style du Miz de jouer à fond sur cette carte-là. Ça peut être intéressant, hein.
Ouais, ben c'est sûr, parce que moi, de toute façon, j'aime pas trop Dean Ambrose en mode hardcore. Quelque part, c'est vrai que comme tu dis, ça va être à contre-courant du reste de la soirée. Ça peut être sympa. On sait que généralement le Miz, il est quand même assez intelligent quand il y a des scénarios un petit peu alambiqués comme ça et qu'il sait plutôt bien exécuter les trucs. Donc, ma foi, ça peut être original. Vaut mieux ça qu'un mauvais match hardcore.
Tout à fait. Vaut mieux ça qu'un Asylum match.
C'est ça. Hein, parce que souvenez-vous quand même du Asylum Match. Moi je suis pour assez qu'on interdise le hardcore à Dean Ambrose en fait.
Écoute, en tout cas, il y a deux gros souvenirs. Le Asylum Match et son truc contre Lesnar avec Stallmania qui pèse lourd dans son passif. Mais bon.
Surtout que le mise en hardcore, je sais pas si ça peut donner grand chose.
C'est pas de vague souvenir. Ouais.
Donc voilà, bon, c'est contestable, hein, les gens peuvent se poser des questions, mais en tout cas c'est parti pour ça, et en tout cas ils nous ont fait un gros match ce soir, hein, franchement,
oui.
Dean Ambrose, il était vraiment très très bon, depuis qu'il est arrivé à Raw, là, il a mis la deuxième vitesse, la troisième vitesse, on retrouve le Dean Ambrose qu'on a aimé, donc c'est vraiment, ça c'est vraiment bien, ça c'est cool, on espère qu'il va tenir ce rythme. On sent qu'il veut s'imposer à Raw et reprendre un petit peu sa carrière en main. Voilà, il n'y a rien de mieux que le Miz, hein, pour avoir une bonne rivalité bien, bien dense, bien, bien constructive. Du beau boulot de part et d'autre.
Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, quand on voit que le main event est squatté par 5 mecs en même temps, là, quand même, il faut bien que derrière ça soit. Ils sont en mid-card, mais ils sont quand même une place pas négligeable. Il vaut mieux être là que être un des 5, je trouve. Enfin, ça dépend lesquels, mais.
C'est ça. Et puis, c'est un beau. Une belle manière de mettre en avant le titre intercontinental.
Tout à fait.
Voilà. Qui était un petit peu passé de mode, un peu sous les radars à SmackDown, parce qu'ils avaient eu déjà cette rivalité à SmackDown, hein. Le Miz et Dean Ambrose, ça s'était pas trop terminé. C'était un peu parti
en
cacahuète, fini en autre boudin. Il y a Baron Corbin qui s'était initié dans l'histoire d'un côté, et puis le Miz était parti affronter Cena. Ça avait donné deux matchs assez oubliables à WrestleMania. voilà, et bah ils reviennent à leur rivalité, et puis ma foi c'est très très bon. Donc tant pis pour SmackDown, et puis c'est bon art pour Raw, hein, finalement.
C'est bon art pour Raw.
Exactement. Allez, on arrive au moment préféré, Charlie Caruso, qui fait une petite interview de Finn Balor. Alors, on a une pub pour le WWE 24, la 24 Hour, qui sera sur Finn Balor, là, qui va raconter un petit peu sa période où il était blessé, là, voilà, de blessure, hein, comment il est revenu au top. Finn Balor nous lance une petite promo, je crois qu'il l'avait déjà donné l'année dernière, hein, mais je suis pas sûr, où il nous explique que, il fait référence au Big Dog, il explique que c'est pas la taille du chien qui compte, c'est la taille du combat dans le chien, et que c'est peut-être le terrain de jeu de Roman Reigns, mais c'est son univers à lui, c'est l'univers de Finn Balor. Et on va vers un des gros matchs de la soirée. Roman Reigns affronte donc Finn Balor, le rematch d'il y a un an qui avait vu la victoire de Balor sur Reigns. Quand Baylor avait débarqué dans le roster principal, t'as eu une fusée. Il avait tout explosé sur son passage, y compris le Big Dog. Mais ce soir, même s'il est diminué, Roman Reigns, il a décidé à pas se laisser faire. Il se bat méchamment, il se bat salement. Tout est en puissance. Baylor ne s'en laisse pas compter. Il arrive à rétorquer avec ses high kicks. C'est drop kick, il essaie de prendre de vitesse Roman Reigns, notamment à l'extérieur du ring, mais Roman Reigns, il est sur le coup, il arrive à choper Baylor, à l'écraser contre le poteau. Donc ça de plusieurs manières hein, puisqu'il va réussir notamment à un moment donné à coincer Baylor contre le ring et à lui faire son basement drop kick. Il va écraser complètement les côtes du Baylor qui aura à partir de là beaucoup de mal à s'en remettre. Il a visiblement... oui, alors là c'était vraiment un coup vraiment très méchant. Roman Reigns sans pitié. Donc il continue à travailler les côtes de Baylor hein, qui a beau se battre comme un diable, placer des sling blades, survivre à des power bombs, mais tout ça ne suffira pas. Il finit par se faire cueillir par un spear. Victoire de Reigns. Première défaite de Finn Balor dans le roster principal. Gros match, hein, moi j'ai trouvé. Je sais pas si t'es de mon avis. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi?
Oui, je suis de ton avis sur un gros match hein, qui a montré s'il le fallait que les deux ont un très très gros niveau.
Ouais.
Donc ils ont bien envoyé ils ont envoyé du lourd hein, et vraiment comme tu l'as dit on va voir dans les prochaines semaines ce qui se trame pour Roman Reigns. Peut-être que je sais pas ce que va donner la blessure de Strowman et tout, mais là il a été violent comme il l'a rarement été, c'est vrai. On a senti il m'a fait penser un peu au Roman Reigns de cet hiver dans le match contre Kevin Owens, là, le mec qui avait vraiment qui s'est dit bon là faut j'envoie du lourd quoi, là il faut pas de sentiment, ouais. Pas de sentiment, je défonce tout. Et c'est vraiment limite une attitude de heel, hein, mais c'est un peu celle qu'il avait aussi cette dernière semaine contre Strowman.
Et contre l'Undertaker.
Et contre l'Undertaker aussi, c'est vrai. Bon, c'est son style hein, globalement, mais c'est vrai que des fois, ouais. Il est un peu plus souriant, poster boy et tout. Là, il est vraiment dans un côté badass, comme à l'époque du Shield heel. Donc, je sais pas trop, parce que post-mania, ce qu'on craignait, alors je sais pas si on craignait ça tous, mais ce qu'il se sentait un peu craindre, c'est qu'il allait se servir de Strowman comme d'un promontoire pour ensuite aller chercher Lesnar. Je sais pas si on va vers ça, mais en tout cas, ça m'étonnerait qu'on aille vers ça avec un Roman Reigns qui reste encore face envers et contre tout, parce que là, pour moi, il est de plus en plus heel, de plus en plus violent. Est-ce que c'était une bonne chose de le faire gagner là ou pas? Parce que c'est quand même dommage pour un Finn Balor qu'on a très, enfin, qui est de retour depuis pas très longtemps quand même et qu'on a vu un petit peu en solo, mais bon. Ça aurait été bien que Balor gagne quand même. En plus, Roman Reigns qui continue à avoir ses bandages de partout là.
Ou une intervention extérieure qui est pas de gagnant ou quelque chose comme ça.
Ouais, bon après, ces interventions extérieures, c'est un peu de la facilité de booking aussi, je saurais pas trop quoi dire, mais bon après, ça peut être justement une... Roman Reigns peut paraître très fort pour finalement être pris au Fatal Five Way, mais c'est vrai que là, je commence à craindre un peu, vu que ben, tous les autres ont l'air d'être un peu occupés dans des feuds, il n'y a plus que lui qui est un peu libre. Enfin, on va en reparler après pour le main event, mais en tout cas, sur ce match ce soir, très grosse performance, beau spectacle. Ça aurait pu limite être un match de pay-per-view avec un peu plus d'enjeux et quelques minutes de plus, donc rien à dire.
Ouais, du bel ouvrage. Après, effectivement, je suis un peu perplexe sur la victoire de Reigns et surtout la défaite de Baylor hein, au final, qui avait donc jamais perdu, qui était invaincu, qui avait ce statut du mec qui avait réussi à battre Roman Reigns, qui est pour moi l'avenir en tant que top babyface à Raw.
Bah oui, pour
et
moi
là,
aussi, oui.
il perd quand même. C'est quand même une grosse défaite. Moi, je trouve une défaite lourde face à Reigns. Bon, maintenant, ils sont à 1 partout.
Oui.
Il y a eu quand même un coup vraiment limite là de Roman Reigns où il l'écrase dans les contre le coin du ring. Au point de lui briser les côtes. Hein. Je pense qu'ils vont nous faire une petite histoire comme ça. Il sera sûrement avec des bandages la semaine prochaine, le bon Baylor.
Il y a des chances.
Bon, le bon, Roman Reigns, alors, à heel turn, je sais pas, mais en tout cas, il continue à le construire. Et je pense qu'il est construit maintenant comme le mec le plus balèze du roster, comme il dit, le Big Dog,
Ouais,
The Guy. Voilà, c'est son terrain de jeu. Il faut qu'il y ait un mec qui soit plus balèze que les autres, alors n'en déplaise effectivement à beaucoup de fans, c'est Roman Reigns à l'heure actuelle, c'est lui le mec le plus costaud du roster. Il y avait Braun Strowman qui était susceptible de le faire tomber, ou du moins de rivaliser, mais maintenant il est blessé, donc ça laisse Reigns tout seul. Il y avait Baylor qui avait cette victoire sur Reigns. Maintenant Baylor est tombé, donc là on repart pour un Roman Reigns imbattable.
Ouais, mais Reigns Lesnar, est-ce que ça te, tu le sens toi, qui on soutient, comment ça se passe,
ça va être un combat de monstre. Non, je serais plus partant moi pour un truc à 3 ou un.
Ouais, parce que le problème de Lesnar, c'est que déjà il est jamais là. Qu'ensuite c'est un heel, c'est le boss final, mais en même temps, de par son statut, les gens l'aiment, parce que quand tu vois Lesnar dans la salle, tu sais que tu vois un truc que tu vois rarement, donc du coup, pour moi, si Reigns se retrouve contre Lesnar, ça va être encore une fois la grosse bon cas pour Roman Reigns, et si en plus il gagne après avoir envoyé l'Undertaker à la retraite, ça va être on peut pas faire sans comme si le public quand même ne comptait pas, donc j'ai du mal à imaginer tout ça.
Ouais, tu penses qu'on aura une bronca telle. Je pense pas que battre Brock Lesnar ce soit aussi violent pour les fans qu'avoir mis à la retraite le Taker.
Non, mais le voir soulever la ceinture, ça va encore pas plaire, quoi.
Oui, ça c'est pas impossible par contre. Ouais. Effectivement, je pense que du moment qu'il aura la ceinture, ça risque de faire.
On est encore loin.
Alors que, ouais, les gens, Brock Lesnar, on le voit pas, quoi. Donc c'est pas. C'est pas trop grave s'il perd la ceinture, mais il faut leur reconnaître le fait qu'ils lâchent pas l'affaire avec Reigns et qu'ils veulent absolument le construire comme le mec le plus costaud. Voilà, ça reste cohérent dans leur construction au final.
Ouais, mais dangereux, hein.
Dangereux, là pour Baylor, franchement, c'est chaud parce que ils tiennent quelque chose avec Baylor, hein, moi je pense. Hein. Pour moi, c'est l'alternative à Reigns au final, parce que Rollins, ça, quoi qu'il arrive, ça patine toujours. Le reste du roster, on voit bien qu'ils sont pas, il n'y a pas le star power. Baylor, pour l'instant, ils ont pas fait trop d'erreurs avec lui, hormis le fait qu'il s'est blessé, voilà. Mais là, depuis son retour, il vient toujours dans des matchs où il est un petit peu la vite et surprise. On n'a pas encore gaspillé le truc du démon. Alors, est-ce que cette défaite face à Roman Reigns, ça va pas faire sortir le démon? Est-ce qu'on va pas avoir droit à un match en pay-per-view entre les deux, avec cette fois Baylor qui sort l'artillerie lourde? C'est un peu délicat, je trouve, de les avoir fait s'affronter aussitôt quand même. Hein.
Ouais, c'est pas mal non plus. Enfin, c'est délicat.
Le match est super cool, hein, ça c'est sûr. On voit que c'est deux gros main eventers et qu'il y a du potentiel pour faire de sacrées affiches, mais c'était peut-être un peu tôt.
Moi, à mon avis, l'histoire récente de la WWE a prouvé que tout miser sur un mec, c'était chaud. Ça a été le cas avec Daniel Bryan et CM Punk. Et là, il faut construire, il faut avoir deux, trois. Surtout qu'il y a deux shows, il faut avoir deux, trois grosses têtes d'affiche par show, en cas de blessure, de dopage ou de départ avec la Fédé. Donc, il y a AJ Styles qui est quand même une grosse tête d'affiche et Owens de l'autre côté qui vont être des gros, mais tant que Lesnar, en tant que semi-retraité, pèse un peu sur Raw, ouais, il faut qu'il y ait un mec autre que Roman Reigns. C'était Strowman, mais il y a de quoi faire du gros star power. Et puis je connais pas du tout le merchandising, mais on sent que c'est un des plus populaires. Quand il fait son entrée, tout le monde lève les bras avec lui. On voit des t-shirts Baylor Club partout, donc il faut pas le sacrifier.
Exactement, exactement. Donc on verra ce que l'avenir nous dira aussi là-dessus. Mais
Oui, là, on
bon, en tout cas,
extrapole.
ils ont fait un putain de match quand même. Hein. Tu vois qu'il y a il y a du level avec les deux-là. Hein. Les gens qui ont tendance à limiter Roman Reigns à ses Superman Punch, là, tu vois quand même que c'est quand même un sacré bon worker et pareil. Moi, j'entends aussi beaucoup de critiques envers Finn Bálor. C'est juste des kicks et tout ça, mais il y a quand même, c'est quand même super percutant ce qu'il fait dans le ring. Il a un bon sailing,
Ouais, il y a du
il y a pas
charisme.
chier, il y a de l'intensité, il y a du charisme. Je vois pas trop ce qu'il y a à redire sur une affiche comme ça, en tout cas. Hein.
On est d'accord.
Ils ont volé le show ce soir, même si on était juste sur un weekly, c'est pas grave. Alors la suite, le main event, du coup.
Et oui, l'autre.
Qui pâtit un petit peu hein, de la comparaison, mais bon. Bray Wyatt, donc, qui pour la première fois affronte Seth Rollins. Donc on a un petit speech de Bray Wyatt hein, qui raconte toujours un peu tout et n'importe quoi. Et on a Seth Rollins qui est interviewé par Charlie Caruso. Et puis il raconte aussi rien de bien intéressant. Et donc on a ce match, donc Bray Wyatt contre Seth Rollins. Donc eux aussi, hein, ils sont bien motivés. On a un Bray Wyatt qui est aussi très percutant. C'est très serré d'un côté comme de l'autre. Notamment Rollins qui porte un Falcon Arrow sur Bray Wyatt. C'est assez violent à voir. Mais l'altercation n'ira pas jusqu'au bout puisque Samoa Joe débarque et c'est la disqualification de Bray Wyatt.
Forcément.
Forcément, bah oui. Alors Joe passe à tabac Rollins. Bray Wyatt remonte sur le ring. Bon, il est un peu fâché contre Joe, mais il commence à aussi à passer à tabac Rollins, il n'y a pas de raison. Ensuite, il fait un peu le mystique Bray Wyatt. Il pousse un petit peu Joe dans les cordes. Joe cesse cette bonne guerre. Il dit, ah, écoute, d'accord, vas-y, tape-le. Mais Bray Wyatt quand même s'énerve et place le Sister Abigail sur Samoa Joe. Et on termine donc sur un Bray Wyatt triomphant pour le coup, malgré une défaite face à Rollins. Mais il a quand même réussi à sécher Samoa Joe et il est vainqueur sur Rollins. Il domine Rollins encore une fois ce soir. Donc un main event encore de bonne facture. Bah ça pâtit un peu pour moi hein, de la comparaison par rapport au Reigns Baylor. Qu'est-ce que t'en as
Oui.
pensé, toi?
Oui, même par rapport au match d'Ambrose et du Miz, ouais, c'était un
Ouais.
peu moins bon. Ben, Bray Wyatt, c'est aussi très aléatoire et là, ils ont pas sorti la grande artillerie, même si c'était pas déplaisant. Ça donne un peu bizarre, hein, quand même, je trouve. Alors, l'intervention de Joe, moi, je la trouve malheureusement complètement téléphonée, hein. Ils étaient 5 en début de show. On
Ouais.
nous book 2 1 contre 1. Il y en a rien qui rentre prévu. On sait qu'il est là, qu'il est dans la salle, forcément. Forcément, il allait intervenir, hein, c'était évident. Je
Effectivement.
trouve, oui, voilà. Donc c'est un peu dommage. Je trouve très bien que Bray Wyatt ait séché tout le monde. Effectivement, il apparaît dominant, il apparaît force. C'est cohérent avec sa victoire finale, si on peut dire, de sa feud contre Orton. Même si bon, il a gagné une feud contre un champion du monde sans piquer la ceinture. Je ne m'étendrai pas plus que ça là-dessus. Mais il a gagné le House of Horror, il est à Raw maintenant, il est dans le haut du panier, c'est logique. Il n'a pas d'amis spécialement, hein, c'est Bray Wyatt, il est un peu électron libre. Mais c'est vrai que ça fait une feud à 5 un peu bizarre. En même temps, ces dernières semaines, on avait plutôt bah, Samoa Joe et Seth Rollins qui n'ont pas tout à fait fini visiblement de régler leur compte. Bray Wyatt, il avait un peu ciblé Baylor. Bon, là, ce soir, ça s'est pas vu. Du coup, c'est
Ah
pour
non.
ça que je me disais, il y a deux feuds en cours, donc il y a quatre mecs un peu occupés. C'est bon, je crains pour ce Fatal Five Way que ça soit Reigns qui sorte vainqueur. Mais en tout cas, c'est un Raw. Enfin, il y a un main event rempli, il y a beaucoup de monde. Chacun doit apparaître un peu fort, mais enfin certains apparaissent assez forts, d'autres apparaissent moyennement forts. Du coup, là, Rollins, il n'a pas trop passé pour un trop fort puisqu'il s'est un peu fait jeu égal avec Bray Wyatt avant de se faire défoncer par
Ouais, par
le
Joe.
Samoan. Donc, il est un peu la carte en dessous.
Toujours un peu le dindon de la farce, Seth Rollins, finalement.
C'est ça, bah c'est pourtant c'est le ouais, je oui, j'allais dire c'est le top face du groupe. Non, parce que Finn Balor, mais ouais.
Ah bah voilà, en quelques semaines Finn Balor, il lui passe devant, j'ai l'impression hein,
enfin, oui, clairement.
C'est un ressenti hein.
Oui oui.
Mais effectivement là c'est pas encore Rollins qui sort grandi de l'histoire, Bray Wyatt c'est toujours au forceps qu'on essaye de le faire passer, d'imposer comme un mec vraiment dangereux, etc. Mais comme il perd toujours les matchs qui comptent,
oui,
il y a
ça.
Quand même tout à faire aussi avec le gaillard. Donc là, bon, il s'en sort plutôt pas mal, mais je suis pas sûr que ça fonctionne tant que ça au niveau du public.
Non, voilà, c'est match... pas trop. Hein, s'il est face ou heel, enfin, il est quand même heel, mais bon, ça fait plusieurs fois qu'il met les Sister Abigail à des mecs méchants. Samoa Joe, moi, je trouve qu'il fait peur physiquement. Il est impressionnant. Il a l'air méchant, mais au final, pour le moment, en termes de match, il n'arrive pas à battre Rollins. Il est un peu.
Il n'a pas eu sa victoire décisive qui l'aurait imposé dans le roster. Ils ont un physique très très similaire, hein, Joe et Wyatt, quand ils sont face comme ça. Ils ont aussi un peu un catch un petit peu sur certaines facettes qui est un petit peu similaire.
Ouais, Joe est un peu plus athlétique, mais c'est vrai qu'ils ont un peu le même gabarit. Ça pourrait faire soit une rivalité, soit une alliance intéressante. Je ne sais pas si ça serait intéressant ou pas. Mais c'est vrai que ouais, je trouve que là il y a, je sais pas, s'il y a un truc sûrement lié avec la blessure de Strowman. Enfin, pour résumer, moi, c'est l'impression que me donne Raw cette semaine et cette dernière semaine. J'ai l'impression qu'ils ont découvert beaucoup de choses en même temps que nous, en fait, les bookers, depuis WrestleMania. Donc, qu'il fallait trouver un challenger heel au Hardy. Bon, alors ça, c'est peut-être à cause de la blessure des Revival. Qu'il y a eu un shake-up, donc il y avait Alexa Bliss, donc du coup, toutes les histoires entre Bayley et Sasha Banks, non, il faut mettre un peu sur pause. Que Brock Lesnar va pas être là pendant 3 mois, donc du coup merde, qu'est-ce qu'on fait? Alors on met 5 gars en main event. Ouais, c'est un bon Raw, hein. D'ailleurs il va être le moment de le noter. C'est pas un mauvais Raw parce qu'il y a des gros matchs, mais on dirait qu'on sait pas trop non plus trop où on va.
Ouais, on sent la précipitation, on sent un petit peu le programme sorti de nulle part parce qu'il y a de la blessure. Et on sent aussi chez les cruisers le manque d'inspiration. Allez, on va passer au mot de la fin du coup. Tu l'as teasé, donc c'est l'heure. On vous rappelle le principe, un top, un flop et une note. Allez, dis-nous tout, Raphaël.
Alors, le flop, c'est quand même la défaite de Sasha Banks, hein, qui va peut-être servir à un booking, mais qui est sur le principe difficilement concevable. Le top, bon, il y en a eu pas mal. Alors, il y a eu pas mal de bons moments, et c'est vrai qu'il y a eu des belles affiches qui auraient pu figurer en pay-per-view. Hein, il y a eu vraiment deux gros matchs. Et du coup, je vais jouer la carte facile. Hein, le match Baylor contre Reigns était très bon, même si le résultat risque d'être lourd de conséquences. Et c'est un Raw qui mérite 3 sur 5, je trouve, mais pas forcément plus, parce que malgré la qualité dans le ring, à mon sens, voilà, on tourne un peu en rond sur certains trucs, les cruisers en avancent pas trop, les tag teams, on a l'impression qu'on est dans une longue période de transition, où il faut remplir des shows quand même un petit peu, donc il se passe des choses, mais
il se passe pas beaucoup de choses très très importantes. On sait toujours pas, visiblement Lesnar il sera pas lent avant le pay-per-view qui s'appelle grosse balle en feu là.
Oui, grosse boule de feu,
et ça personne le remet en question non plus, hein, même Kurt Angle, c'est un peu bizarre. Donc bon, en gros moyen, correct.
Ouais, on a fait le deuil de la ceinture universelle et de la présence de Lesnar. Alors,
et toi?
Moi, mon flop, je vais le donner aux cruisers. Alors, on donne souvent aux cruisers, mais là, cette semaine, ils ont fait la même chose que la semaine dernière. Quasiment mot pour mot. Donc, il faut pas faire ça, hein, tout simplement. Il faut pas dire toutes les semaines la même chose. Hein. Voyons, on va voir des trucs un petit peu différents. Voilà, bah, c'est bien mérité. Et le top, je vais le donner à Dean Ambrose, une fois n'est pas coutume, parce que j'ai trouvé qu'il s'était bien levé le cul pour son match,
Ouais.
qu'il avait vraiment mené tout ça de bout en bout, qu'il a été à 100 à l'heure. J'étais content de le revoir comme ça au top. Donc il aura droit, comme il est au top, à mon top. Je vais te rejoindre sur la note, je vais mettre un bon 3. On est un peu dans le flottement, effectivement, mais on a eu des gros matchs. Ils sont quand même levé le cul pour sortir une affiche qui avait de la gueule ce soir, hein, mais quand même un titre intercontinental avec un gros match. Roman Reigns contre Finn Balor, c'était quand même magnifique. Le match Rollins-Wyatt était pas dégueulasse. On a eu quand même une belle performance au micro de la belle Alexa, un heel
C'est
turn de
vrai.
Goldust,
Ah oui.
voilà, donc plutôt des bons moments,
Oui, c'est vrai, en fait, redit comme
voilà,
ça, oui.
enfin, toujours, tant que Kurt Angle est là, tout va bien.
Pour le moment, ça va pas. Mais je remarque quelque chose quand même. Je ne sais pas si vous en avez parlé précédemment parce que j'ai pas pu vous entendre la semaine dernière. Mais j'ai remarqué qu'il y a quelque temps, tu disais que tu attendais désormais avec impatience le segment chaque semaine de Kurt Hawkins. Et depuis que tu as dit ça, ben, il n'est plus là.
C'est vrai. Alors ça, par contre, ça pourrait être mon flop toutes les semaines. Hein. C'est-à-dire
Ouais,
que tant qu'il n'y a
je...
pas Kurt Hawkins, c'est quand même une petite faute de goût.
Je crois que là, la WWE veut nous contrarier, veut te contrarier.
C'est ça. Non mais ça c'est facile. Ils aiment pas les gens. Tu vois, si c'est pas des gros musculeux comme Braun Strowman, des mecs qui ont du talent in-ring comme Hawkins, et ben ils sont tout de suite mis au placard. Ça me dégoûte. Mais bon, c'est comme ça. Je prends mon mal en patience. Je vais peut-être lancer une pétition pour le retour de la Star Factory de Kurt Hawkins.
C'est vrai.
Mais bon, on peut pas avoir chaque semaine Enzo qui se prend une branlée et puis Kurt Hawkins aussi, ça fait un peu beaucoup.
C'est vrai.
Donc voilà, ben, peut-être qu'il sera de retour la semaine prochaine, je ne sais pas.
Croisons les doigts.
Croisons les doigts, c'est ça. Voilà, ben, on a fait le tour de la question, donc c'est l'heure de l'autopromo.
Allez.
Donc je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur YouTube, tiens, pour commencer, YouTube, la chaîne des Cahiers du Catch.
Bien sûr.
Pensez à vous abonner, hein, mettez des pouces là, dites que c'est cool, mettez des
Partagez.
commentaires, partagez, envoyez ça à vos amis
Posez-nous.
sur posez-nous des questions,
Oui,
envoyez
voilà.
ça sur Facebook. D'ailleurs, Facebook, nous c'est Catch Up CDC.
Voilà, vous pouvez
Si
liker.
vous préférez Twitter, et ben c'est Catch Up CDC aussi. On est aussi sur PodCloud, si vous voulez écouter ça tranquillos. Et on est aussi sur un autre truc qui s'appelle iTunes. Paraît que c'est moderne, paraît que ça fonctionne bien aussi. Mettez des étoiles là-dessus, je crois. Voilà, on est là toutes les semaines. La semaine prochaine, bah, vous nous retrouverez, donc du coup, puisque je viens de dire qu'on est là toutes les semaines. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a le supplément qui va aussi arriver cette semaine, le supplément SmackDown. Donc avec bah, ça va être le Go Home Show
Eh oui.
pour comment ça s'appelle ce
Backlash.
Backlash, ce pay-per-view de la brande bleue.
Et oui, ne ratez pas le couronnement du Maharaja.
C'est ça, le Maharaja va prendre la ceinture à Randy Orton.
Spoiler.
Spoiler alerte. Et les tag team, il y a Breezango hein, qui devrait aussi gagner les titres par équipe.
Ça, j'y crois moins, mais on peut dire que oui.
SmackDown, la terre de toutes les surprises.
Mmh.
Voilà, vous retrouverez ben, l'ami IRM et l'ami Giscal, hein, je pense, pour le supplément. Et puis, bah écoute, moi je te remercie d'être venu, Raphaël.
Ben, ce fut un plaisir, comme toujours, tu le sais, Ringside.
Écoute, plaisir partagé.
Fort bien.
Tout ça est très bien. Voilà, les amis, c'est terminé. Je vous dis à la semaine prochaine. Profitez bien, passez une bonne semaine pleine de catch. Ciao, ciao.
Ciao, bonne semaine à tous.